Bonsoir Eric Manilakiza avec vous sur VOA Afrique. Bienvenue dans Sporama. À vous tous, chers amateurs sportifs, nous allons passer en revue le tirage au sort de la Ligue des Champions en Afrique et de la Coupe de la Confédération africaine. Nous allons parler de nous allons aussi parler de la Côte d'Ivoire qui a remporté la première Coupe du Monde de Maracana. On fera le tour des championnats en Europe. Nous sommes en ligne avec nos consultants sportifs, Jules Valentin Ngwe. Jules, bonsoir. Jules n'est pas encore là. On va essayer d'établir la communication avec lui. Nous avons Amine Birouk. Amine, bonsoir.
Bonsoir Eric et bonsoir à tous.
Élisée Ongpatine est avec nous. Bonsoir Élisée.
Oui, bonsoir Eric et bienvenue au Bénin.
Le populaire Amédine Sy. Bonjour Amédine.
Bonjour Eric et bonjour à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Voilà, on essaie de retrouver Jules Valentin Ngwe. Amine, vous avez suivi cette nouvelle, une triste nouvelle, le Kenyan Kipyego Bett, médaillé de bronze de 800 mètres aux Mondiaux 2017 à Londres, qui est décédé hier dimanche à l'âge de 26 ans d'une insuffisance rénale et hépatique. C'est ce que a annoncé ce lundi sa famille. Et que peut-on savoir de Kipyego Bett?
En tout cas, il appartenait à la tradition de cette école kényane d'athlétisme. C'était un spécialiste du 800 mètres, champion du monde junior en 2016, médaillé de bronze en 2017 lors des mondiaux qui s'étaient disputés à Londres. Et on lui prédisait un grand avenir. Sauf que, après avoir tutoyé et touché la gloire, il a vite sombré, puisque une année plus tard, il était contrôlé positif aux anabolisants. Et à partir de là, c'est la véritable descente aux enfers, tout d'abord à cause d'une suspension de 4 années, puis évidemment sombrer dans l'alcoolisme, déprimé et souffrir de ces graves problèmes de santé, quitter ce monde aussi jeune après avoir une carrière aussi prometteuse, vivre ces quelques années que je ne souhaiterais à personne, même à mon pire ennemi, sont le lot de sportifs qui ne savent pas gérer leur carrière, qui ne savent pas se remettre de certains contre-coups. On peut avoir, je dirais, toucher à des substances interdites, mais on doit rapidement vivre ce qu'on pourrait appeler une résilience, une rédemption. C'est ce que n'a pas eu Kipyego, et c'est bien dommage. Aujourd'hui, les athlètes kényans sont ciblés par les cas de dopage. Certains arrivent à rebondir après avoir purgé leur suspension, et d'autres sombrent définitivement. On souhaite paix à son âme, et bien évidemment, on pense énormément à lui et à sa femme.
Amédine Sy, est-ce qu'on peut dire qu'il n'a pas eu un accompagnement psychologique ou autre pour, disons, surmonter cette épreuve?
Oui, c'est vrai que il a eu des problèmes, comme Amine l'a dit. Et d'habitude, les sportifs de renommée internationale qui sombrent, c'est parce que tout simplement, ils n'ont pas eu un bon entourage. Parce que c'est très important d'avoir des gens qui te conseillent de faire ceci et de ne pas faire cela, parce que, comme vous le savez, la gloire est très difficile à gérer. En tout cas, c'est vraiment regrettable. Moi, je retiens que c'était un athlète, vraiment un très bon athlète qui a fait honneur à l'Afrique. Moi, je préfère retenir que ça et je prie pour lui, Eric.
Merci à Médine. Élisée Ongpatine, on va parler de Johan Neeskens, l'un des artisans du football total et pilier de la grande équipe des Pays-Bas des années 70, qui est aussi décédé. Lui, il est décédé à l'âge de 73 ans. C'est ce qu'a déclaré la Fédération néerlandaise de foot lundi. Il comptait 49 sélections. Jude, pour ceux qui n'ont pas connu ce joueur, que peut-on garder de lui? Élisée, plutôt.
Oui, c'est un très bon milieu de terrain, il faut le dire, puisque quand on parle des joueurs qui évoluent souvent dans l'entrejeu, on ne pense qu'à lui, puisqu'il fait partie de cette belle génération. Hein, et d'abord avec la Jazz, hein, il faut le dire, et Eric, entre 70 et 74, il a disputé 171 matchs et a inscrit, vous l'avez déjà dit, 39 buts. Et il fait partie de cette belle génération avec comme partenaire un certain Johan Cruyff qu'on connaît très bien, l'artiste. Et puis, et il a gagné avec la Jazz 3 Ligues des Champions d'affilée, vous imaginez, en 21e siècle. Seul le Real Madrid l'a fait avec Zinedine Zidane comme entraîneur. Vous imaginez, le Real l'avait fait entre-temps. La Jazz aussi l'a réalisé. Et il a disputé deux fois la finale de la Coupe du Monde avec les Pays-Bas. Vous vous rendez compte, c'est un joueur, un immense joueur qui a connu une très belle carrière, même si avec sa sélection, il n'a jamais gagné la Coupe du Monde. Mais en club, il a réalisé quand même une saison. En tout cas, il a réalisé des saisons inoubliables avec la Jazz, où il a remporté le championnat et aussi la Ligue des Champions. Latis est décédé. Vive Latis.
Vive l'artiste Jules Valenté. Vous qui aimez le coup de sifflet, quel serait le coup de sifflet pour cet illustre disparu?
Mais surtout qu'il le mérite. Il faut dire que Neskens était aux côtés de Johan Cruyff dans les années 70, le visage de la merveilleuse équipe néerlandaise bâtie autour de l'Ajax d'Amsterdam, qui remit en cause la longue suprématie du football latino-américain, en particulier brésilien, juste après la retraite internationale de Pelé en 1971, en redéfinissant les fondamentaux technico-tactiques dans le sillage de l'entraîneur Stéphane Kovacs, qui trouva une parade à la magie irrésistible des artistes brésiliens. Le football total, où tout le monde défend, où tout le monde attaque, était né et promu par les puissants joueurs bataves de l'Ajax, puis les oranges mécaniques de l'équipe nationale au look de Beatles, qui pourfendaient tout le terrain et en quelque sorte passaient sur l'adversaire, marchaient pratiquement sur l'adversaire. Le fer de lance de l'attaque mitrailleuse était l'inoubliable patron Johan Cruyff, mais à la manœuvre au milieu de terrain se trouvait son compère Neskens, plus métronome que porteur d'eau et dont le football moderne faisait sa mue. Neskens va rejoindre son complice de toujours dans l'Olympe des divinités qui ont façonné le sport roi tel qu'on le connaît actuellement. Alors merci champion.
Amine Birouk, que encore dire après Jude sur Neskens?
Neskens aurait été le porteur d'eau de cette grande équipe de l'Ajax, c'est-à-dire celui qui faisait les sales besognes pour permettre à d'autres de briller, notamment Johan Cruyff. C'était le jumeau que n'a jamais eu Johan Cruyff dans sa vie familiale. Celui qui l'a accompagné dans cette grande équipe de l'Ajax, qui a dominé la planète foot du football européen au début des années 70, qui a imposé un concept de football révolutionnaire. Je le disais, tout le monde attaque, tout le monde défend, tout le monde joue l'un pour l'autre, on bouge constamment. Un football dynamique qu'on n'avait pas vu auparavant. Et puis, pensez à cette équipe des Pays-Bas qui fait partie aujourd'hui de l'Olympe des perdants merveilleux. Les Pays-Bas ont disputé deux finales de Coupe du Monde, ont sublimé le football en 1974, mais n'ont pas pu graver leur nom au palmarès de la Coupe du Monde. Et Johan Neskens a fait partie de cette génération, certes maudite, mais que les puristes, que les romantiques du football rappellent avec énormément d'amertume, mais surtout avec énormément de nostalgie. Il n'y aurait pas eu de football moderne tel que nous le concevons avec le Barça, avec le Real, avec le Bayern, avec notamment Guardiola, s'il n'y avait pas eu ce qu'a inventé Stéphane Kovacs, ce qu'a, je dirais, anticipé Rinus Michels, et ce qui a été mis en pratique par un architecte sur le terrain qui s'appelait Johan Cruyff. Mais derrière lui, il fallait bien avoir des porteurs de piano, et le premier porteur de piano de cette équipe des Pays-Bas s'appelait Johan II ou Johan Neskens.
Oui, nous avons Ahmed Insi, nous allons parler maintenant de Aliou Cissé qui a quitté le navire des Lions de la Teranga. Est-ce que c'est une nouvelle qui vous a surpris ou vous y attendez?
C'est une nouvelle qui m'a surpris. Hein. Ça m'a surpris et je ne cacherai pas que ça me fait mal comme beaucoup de sportifs dans le monde, puisque Aliou Cissé C'est l'entraîneur qui a réussi à donner au Sénégal son premier titre continental. Le Sénégal courait derrière ce titre depuis 57 ans. À lui, c'est 9 années et 6 mois à la tête de cette équipe nationale. Mais à la grande surprise, comme son contrat arrivé à terme le 31 août dernier, la fédération avait évalué et avait émis le souhait de renouveler son contrat. Mais malheureusement, Madame le ministre des Sports, dans la semaine passée, le mercredi, pour être plus précis, hein, a envoyé une correspondance au président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, pour lui faire savoir que l'État du Sénégal n'allait pas renouveler le contrat d'Aliou Cissé. Et comme argument, elle a donné des objectifs non atteints, à savoir la dernière CAN, le Sénégal devait gagner ça. Peut-être que c'était des objectifs assignés à Aliou Cissé. Et la dernière Coupe du Monde aussi, le Sénégal devait aller jusqu'en quart de finale. Et ensuite, elle a rajouté que le Sénégal a régressé au niveau du classement FIFA. Et enfin, la désaffection du public envers Aliou Cissé. Des arguments qui ne tiennent pas la route, hein, il faut le dire, puisque la fédération qui emploie Aliou Cissé, c'est vrai que c'est le ministère des Sports qui paye, mais c'est la fédération sénégalaise de football qui emploie Aliou Cissé et ils ont évalué Aliou Cissé. C'est vrai qu'ils n'avaient pas atteint ces deux objectifs, mais ils avaient dit qu'ils allaient continuer, les membres de la fédération, qu'ils allaient continuer avec Aliou Cissé parce que c'était la décision la plus sage, puisqu'il y avait les éliminatoires de la Coupe du Monde et de la Coupe d'Afrique, des éliminatoires entamés avec Aliou Cissé en dents de scie, parce qu'il y a eu deux nuls, hein, au Sénégal contre le Burkina et la RDC, mais la fédération avait tacitement reconduit le contrat d'Aliou Cissé, mais pour ne pas aller en bras de fer avec le ministère des Sports, la fédération, les responsables ont dit il n'y a pas de problème. On a vu Aliou Cissé qui a pris cette décision avec philosophie. Mais ce que Aliou Cissé a fait, aucun entraîneur sénégalais ne l'a fait. Puisque Aliou Cissé, c'est 103 matchs, 67 victoires, 23 matchs nuls et 13 défaites seulement. Avec Aliou Cissé, le Sénégal a réussi en 2017, c'était sa première CAN, à aller en quart de finale, là où le Sénégal ne pouvait pas atteindre le premier tour. Puisque en 2015, avec Jerez, on avait raté le premier tour. En 2012, avec Amara Traoré, le Sénégal avait concédé 3 matchs, 3 défaites. Avant Amara Traoré, Koto n'avait pas réussi à qualifier cette équipe pour la CAN. Avec Aliou Cissé, en 2019, c'est une finale perdue face à l'Algérie. Et en 2021, une Coupe d'Afrique gagnée pour la première fois de l'histoire par le Sénégal. Aliou Cissé aussi a réussi à qualifier deux fois consécutivement le Sénégal à la Coupe du Monde. Je veux parler de la Coupe du Monde 2018 en Russie et au Qatar en 2022 pour te dire que cette nouvelle, c'est vrai qu'on parle qu'il a fait 9 ans à la tête de l'équipe nationale du Sénégal, mais ces 9 ans, c'est parce qu'il a eu de bons résultats. Parce qu'à part Aliou Cissé, aucun entraîneur sénégalais depuis 2000, je te dis, n'a fait deux CAN. Que ce soit Pete Schniger qui a fait les quarts de finale au Nigeria, que ce soit Bruno Mbetsu qui a amené pour la première fois le Sénégal en finale en 2002 et une Coupe du Monde, quart de finaliste, il n'a pas fait deux CAN. Après lui, il y a eu Guy Séphan, il y a eu Henri Kasperzak, ensuite il y a eu Lamine Diaye, il y a eu Joseph Koto, il y a eu Alain Jurès. Après, et ensuite, Aliou Cissé est arrivé. C'est pourquoi il a duré, parce qu'il avait fait de bons résultats. Je pense que, bon, je ne le souhaite pas, mais le Sénégal va vers des problèmes, puisque le succès d'Aliou Cissé, la CAN gagnait, parce qu'il y avait une stabilité au niveau du staff technique des Lions. Mais malheureusement, l'aventure s'arrête brusquement pour Aliou Cissé. Mais c'est comme ça le sport. On va essayer de faire avec. En tout cas, pour les deux matchs qui vont se dérouler le 11 et le 15, il y a Pape Thiaw, son adjoint, qui va diriger l'équipe. Mais après, le Sénégal, les responsables vont lancer un appel à candidature pour savoir qui sera le successeur réellement d'Alice. Mais c'est vraiment dommage ce qui vient de se passer au Sénégal avec les nouvelles autorités qui n'ont rien compris en ne renouvelant pas le contrat d'Alice. C'est Eric.
Jude, est-ce qu'on peut espérer qu'il pourrait faire un comeback, je ne sais pas quand, et puis il faut reconnaître que lors de la dernière CAN, il avait des joueurs qui n'étaient pas en forme, dont notamment Sadio Mané.
Non, mais il faut dire qu'il a eu un groupe, il a travaillé sur une base, parce que à l'UCICE, c'est d'abord un bloc hermétique du Sénégal qui était très difficile à désarçonner, quel que soit le niveau de l'adversaire. Et donc, en ayant cette assurance tout risque, avec des attaquants très percutants, et il a fait des résultats. Mais nous, cette génération est en train de partir, et même partie en grande partie. Et donc, il y a une nouvelle génération aux qualités différentes qui s'amène. Je crois qu'il faut savoir quitter le bateau en étant toujours au sommet. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Et comme tu le disais tantôt, il peut partir pour revenir à un certain moment. Il me rappelle un peu pour l'équipe de France un certain Didier Deschamps qu'il admire beaucoup et qui aurait intérêt peut-être à suivre aussi cette route en attendant peut-être d'autres défis. Donc partir, ce n'est pas mourir de toutes les façons.
Oui. Amine, on va parler de Paul Pogba qui ferait son retour en mars 2025. Sa peine a été réduite à 18 mois.
Alors qu'il devait purger initialement 4 années, et il faut maintenant voir dans quelle mesure il pourra rebondir après autant de mois d'inactivité. Je n'ai aucun doute sur le professionnalisme du joueur, sur son implication, mais le rythme des matchs, c'est important dans la vie d'un footballeur. Et manquer de rythme de compétition, ça veut dire qu'il ne sera pas prêt à être opérationnel, même après mars 2025, en tout cas pendant quelques semaines. Encore faut-il savoir si la Juve, avec laquelle il est encore sous contrat, veut bien de lui. Est-ce qu'il s'entend avec Thiago Motta ou est-ce qu'il sera obligé de changer d'air? On parle d'une possible destination dans le football français. Et s'il y a un club qui est bien preneur, en tout cas de stars, qui vient de la Serie A italienne, l'exemple de Rabiot en est la preuve, c'est bien l'Olympique de Marseille. Mais justement, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux attendre fin juin, histoire de pouvoir négocier un bon contrat et débarrer la saison de bon pied, la saison 2025-2026, dans les prochains mois? En tout cas, c'est une affaire à suivre et ça fait plaisir de retrouver un joueur qui n'a jamais démérité et qui manque cruellement à cette équipe de France, on l'a vu, notamment lors du dernier Euro.
Et Didier Deschamps a salué son retour l'année prochaine.
Oui, Didier Deschamps a besoin d'un joueur comme lui. Il a dû recourir au service de Kanté lors du dernier Euro. Kanté qui s'est réfugié un peu en Arabie Saoudite. Aujourd'hui, le milieu de terrain de l'équipe de France manque de créativité, manque de cette synthèse que représentait Paul Pogba en termes de technicité et également de capacité à gagner les duels et à gagner les duels et à s'imposer physiquement. Donc on verra dans les prochains mois comment et quelle destination Paul Pogba pourra prendre.
Élisée, nous avons le tirage complet des groupes de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération. Quels sont les groupes qui s'annoncent disputés et quels sont les matchs qui pourraient être abordables?
Et bien évidemment, automatiquement, on tombe dans la poule B où il y a deux représentants marocains qui vont s'affronter, le Raja de Casablanca qui est en train de retrouver sa forme et puisque depuis près de 3 saisons et bien le club est en train de le club a connu beaucoup de difficultés. Amin Birouk ne me dira pas le contraire et cette fois Asfa le club de Rabat qui quand même retrouve le sommet du football du championnat marocain se qualifie enfin pour la phase de poule. Donc les deux clubs marocains vont s'affronter dans la poule B avec les Mamelodi Sundowns, un habitué qu'on connaît très bien, avec le petit novice, c'est bien sûr les Congolais de Kindu, Maniema Union. Sinon, pour les autres groupes, c'est quand même abordable hein, avec le groupe A où on retrouve le TP Mazembe, les Sud-Africains, les Tanzaniens plutôt de Young Africans, les Soudanais d'Al Hilal et puis le Mouloudia Club d'Alger. Pour le C, nous avons le tenant du titre à la Ligue du Caire, les Algériens du CR Belouizdad, les Sud-Africains d'Orlando Pirates et puis le Stade d'Abidjan qui fut le premier vainqueur de cette Ligue des Champions. Il y a très fort longtemps, eh bien, le club a disparu un temps soit peu avant de retrouver le sommet du football ivoirien. Puis, la poule D, nous avons un éternel habitué, l'Espérance de Tunis, les Égyptiens de Pyramide, ou encore le nouveau riche angolais, le Sagrada Esperanza, puis quand même le Djoliba AC de Bamako. En tout cas, à part le groupe B, tous les autres groupes sont abordables.
Merci Amine. En une minute, que dire de ce tirage?
Déjà pour le groupe B, puisqu'il y a un duel fratricide. D'ailleurs, les règles de la CAF sont bizarres. On n'accepte qu'un maximum de deux clubs par pays par compétition. Et les règles permettent que ces deux clubs se retrouvent en phase de groupe, ce qui est le contraire de ce qui se fait par exemple en UEFA, où les deux pays, où deux clubs du même pays ne se retrouvent qu'en confrontation directe et encore à partir des quarts de finale. Mais ce qui est important dans tout ça, c'est que les deux clubs marocains se retrouvent pour la première fois à Saint Mamelodi Sundowns, qui a été habitué à affronter l'Ouled de Casablanca. Ce sera une toute autre destination, c'est un tout autre duel. Et on verra s'ils ne se prennent pas des points entre eux. On est capable d'avoir les deux clubs marocains en quart de finale, avec la bénédiction d'une équipe de Mamelodi Sundowns, affaiblie après le départ de Mokoena et de nombreux cadres de l'équipe.
Jude, nous allons parler maintenant très rapidement du football en salle avec la Côte d'Ivoire qui a remporté la première Coupe du Monde de Maracana.
Oui, mais il faut dire que ça, c'est la Côte d'Ivoire qui l'a pratiquement inventé. Et bon, donc c'est une bonne chose que cela lui est servi. Les autres connaissaient moins les règles et ils sont venus les apprendre. Et finalement, le palmarès retiendra que le premier vainqueur a été l'inventeur ivoirien.
Ahmedine Sy, en quelques secondes.
Oui, on salue vraiment cette performance parce que quand un pays africain réussit à gagner une Coupe du Monde, que ce soit une Coupe du Monde de beach soccer, que ce soit une Coupe du Monde de foot en salle ou de maracana, c'est toujours bien parce que c'est l'Afrique qui est sur le toit du monde. Je dis bravo à ces Ivoiriens. Ils ont initié cette compétition et ils l'ont gagnée. C'est vraiment bien pour l'Afrique, Eric.
Amine Bourouk, les championnats d'Europe en un coup d'œil. L'Allemagne et la France.
En France, c'est Monaco qui prend la tête après avoir gagné à Rennes 2-1 sur deux passes décisives de l'international marocain Belsrier. Monaco qui profite des matchs nuls conjugués du PSG à Nice et de Marseille face à Angers. C'est la première fois depuis fort longtemps que Monaco mêle le bal. Depuis l'arrivée des Parisiens, il y a eu quasi-suprématie de ce PSG version Qatari. En Allemagne, c'est le Bayern, bien évidemment, et surtout on remarque que le Bayer Leverkusen, qu'on croyait parti pour faire plus qu'un one-shot, a calé à domicile face au nouveau promu Kiel de but partout. Ça en dit long sur cette nouvelle hiérarchie qui est en train de s'installer en Allemagne, où le Bayern est concurrencé par d'autres clubs, mais où le Bayern, sur une saison normale, est capable de tenir son
rang. Jude, on va en Espagne et en Angleterre avec toi, en moins d'une minute.
Oui, en Espagne, c'est surtout le galop de Barcelone, surprenant de Barcelone, qu'on s'attendait à connaître des temps difficiles, et le Real qui peine à trouver son rythme de croisière et qui a des blessures, tellement il a été sollicité. En Angleterre, ce sont les mêmes cadors, et en particulier Liverpool, qui est en train de faire pratiquement cavalier seul devant, mais l'inévitable Manchester City, et là, Arsenal aussi. Je crois que c'est parti pour une bonne année de football.
Élisée, avec toi, on va en Italie en 30 secondes.
Oui, avec un leader surprenant, Naples, avec son goleador, bien sûr, le Belge Romelu Lukaku, qui fait parler de lui. Hein. Il a presque évolué dans tous les grands clubs en Italie, sauf le Milan. Sinon, il a évolué du côté de l'Inter, de la Roma, et aujourd'hui du côté de Naples, qui permet justement aux Napolitains de garder la tête du championnat devant le champion en titre, l'Inter de Milan. La grosse déception, c'est bien sûr le Milan, c'est avec Fonseca, qui n'arrive toujours pas à retrouver son football.
Ahmedine Sy, en 30 secondes, nous revenons aux États-Unis. LeBron James, qui a joué avec son fils, Bronny.
Oui, c'est une bonne chose. Ça prouve que une hygiène de vie est tellement importante parce que si tu parviens à jouer avec ton fils, ça prouve que tu as une hygiène de vie super importante et il y a la longévité. Chapeau au grand champion de Bloodian.
Merci à Medine Si, merci Élisée Onkpatine, merci à Amine Birouk, Jules Valentin Gouet pour toutes les contributions dans cette édition de Sporama. Je vous souhaite une excellente soirée. Eric Manirakis a été avec vous au micro. José Morissin a assuré la réalisation et à la prochaine.